difference, but you're still mine. And I don't usually like to waste time, but you could waste mine. You could waste mine. Baby, this is way better than a FaceTime.
Bonjour, eh bien on se retrouve à la nouvelle heure des carnets hebdomadaires de Comaguerre, donc désormais tous les mardis à 14h, jusqu'à tant qu'on pourra, pour une durée indéterminée, comme les contrats, on fera cette émission hebdomadaire sur l'actualité internationale à 14h, de 14h à 15h sur Radio Galère. Et vous savez que cette émission, toutes les semaines, est rediffusée le jeudi matin de 10h à 11h et qu'elle se trouve aussi ensuite sur le podcast de Radio Galère. Vous pouvez l'écouter, comme on dit, où vous voulez, quand vous voulez.
Sur votre ordinateur.
Voilà, sur votre ordinateur, c'est très très facile. Voilà, donc on se retrouve, l'équipe a changé d'heure, elle est toute là au complet. Donc Roselyne Dreby qui est dans la cabine que je salue. Bonjour Roselyne.
Bonjour.
Bonjour. Et Habib Turki que je salue. Bonjour Habib.
Bonjour. Voilà.
On est là.
Bonjour Bernard, bonjour
on est là, on est là. Et même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous savez, là, vous connaissez l'histoire. Deux mots. Et on y reviendra beaucoup sur la crise européenne. La crise européenne, c'est-à-dire, il y a une crise européenne parce qu'on sent de plus en plus de pays qui se posent des questions sur quelle politique mène l'Europe, quelle politique et qui mène la politique européenne. Alors, juste un mot, et on y reviendra abondamment puisque les élections pour le Parlement européen, c'est que pour le printemps prochain, en rappelant que le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir, voire pas du tout, mais je vais m'arrêter un peu là-dessus, et que, par contre, c'est la Commission qui a pris le pouvoir au détriment du Conseil des ministres, formellement, politiquement, le Conseil des ministres, c'est-à-dire c'est la réunion des chefs de gouvernement des 26. Bon, et c'est eux qui devraient orienter la politique de tous les États ensemble. Bon, en fait, en pratique, on s'aperçoit, vu sa prise de parole, son apparition systématique devant les télévisions, que c'est la présidente de la Commission, qui n'est jamais qu'un fonctionnaire, Madame Ursula von der Leyen, qui donne le ton et qui annonce la politique de l'Union européenne. Elle n'en a pas le pouvoir. Donc chaque propos de Mme von der Leyen concernant l'avenir de l'Europe est une usurpation de son titre et de son rôle. Que les choses soient parfaitement claires. Bon. Et d'autres raisons font qu'elle n'est pas très fréquentable, puisqu'en fait, elle nage dans un océan de corruption. Bon, ça, elle n'est pas seule, hélas, à nager dans ce type d'océan. Apparemment, pour l'instant, elle surnage. Mais il y a des moments où on se noie dans les océans de corruption. Bien. On y revient. Si, alors, une dernière chose, parce que s'il m'a fait donner l'envie de parler de la crise de l'Union européenne, c'est que les dernières interventions du Parlement européen, vous savez que le Parlement européen, même s'il n'a pas beaucoup de pouvoir, est très bavard. Il met son grain de sel un peu sur tout, parce que ça fait partie de la propagande occidentale, les positions du Parlement européen. Et le dernier grain de sel, j'allais dire presque un crachat, parce que c'est presque ridicule, du Parlement européen, concerne le président de la Fédération de football espagnole. Alors je rappelle les faits en deux secondes. Donc il y a une Coupe du monde de football féminin qui est gagnée par l'équipe espagnole. Ça se passe en Australie. Et à la suite de quoi, au moment de la remise des médailles ou des trophées, je n'ai pas regardé ça, le président de la Fédération d'Espagne de football vient embrasser vigoureusement sur la bouche la capitaine de l'équipe.
Ouais.
Voilà. Alors, bon. C'est surprenant, pas qualifiable. Alors, lui dit qu'elle a accepté, elle dit que c'est pas vrai. Bon, dans ce genre de... Le problème, c'est qu'à partir d'un type d'incident comme ça, qui fait que ce personnage, M. Fourialès, est probablement pas un personnage intéressant, mais ça n'a pas d'importance pour l'avenir de l'Europe. Et par contre, le Parlement européen va passer des heures à faire une communication et à dire que c'est inacceptable et qu'il faut le virer. D'ailleurs, il a depuis donné la démission de la présidence de la Fédération européenne. Mais que le Parlement européen, que ces 600 personnes payées plus de 6 000 € par mois passent des journées à s'occuper de ce genre de sujet, je veux dire, ça veut dire que les autres problèmes européens ne les intéressent pas. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire de la mousse, pour faire causer sur les antennes, c'est tout. Alors, je ne soutiens pas les actes de M. Fourialès, ça me dégoûte plutôt qu'autre chose, mais ce n'est pas ça l'avenir de 400 millions d'Européens. Ça ne se joue pas sur un baiser sur la bouche. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas donner une proportion folle à des événements secondaires. Le personnage n'est pas intéressant, bon, il a quitté sa fonction, mais je pense qu'il y a à la tête d'un certain nombre de fédérations sportives des genres de gens qui ne sont pas plus intéressants que lui. Donc arrêtons, ce n'est pas ça l'avenir de l'Union européenne. Il y a 450 millions d'habitants qui sont embarqués dans cette aventure, qui ressemble de plus en plus d'ailleurs à une aventure. Je n'utilise pas le mot tout à fait par hasard. Bon, c'est tout, n'en parlons plus, ça ne mérite pas plus, mais ça méritait d'être dit. Voilà, ce qui fut fait. Bien, pour le reste, beaucoup de choses très intéressantes. Alors, on va abondamment parler de l'Afrique, puis on dira quelques mots aussi sur la Syrie tout à l'heure, parce qu'on est rentré dans une période, alors, une espèce de propagation, c'est comme les ondes sismiques, vous savez, ça bouge à un endroit, et puis la plaque tectonique bouge, et puis il y a un autre endroit qu'on n'a pas vu venir, beaucoup plus loin, où ça rebouge. Bon. Alors on a suivi l'évolution donc, du mouvement de la plaque depuis la Guinée au Mali puis au Niger et puis tout d'un coup ça descend un peu vers le sud et ça descend hein, dans ce qu'on a appelé à l'époque l'Afrique équatoriale. Alors le premier mouvement de terrain, c'est, j'allais dire, l'affaire Bongo. Oui, appelons ça l'affaire Bongo, c'est-à-dire, alors qu'on n'a pas vu de manifestations de rue, de crises ouvertes, tout d'un coup, il y a un monsieur qui fait partie de l'entourage de Bongo, qui a été un des dirigeants du pays dans la famille, avec la famille Bongo, qui s'est probablement enrichi, peut-être pas autant que les Bongo, mais apparemment, ce qu'on sait, c'est que c'est pas mal non plus, hein, qui est un général, qui a été quand même le chef de la garde présidentielle, donc un poste militaire de confiance, il protégeait les Bongo père et fils. Bon. Et ce monsieur, tout d'un coup, le lendemain des élections, où paraît-il Ali Bongo a été élu président de la République pour un nouveau mandat, ce qui dit non, les élections sont truquées, c'est moi le président. Bon, alors on veut bien, mais en fait, il n'y a pas eu ni de protestation d'un côté ni de l'autre. La famille Bongo n'a pas crié au scandale, elle s'est tue, je ne sais pas où elle est, d'ailleurs elle s'est peut-être réfugiée quelque part dans une de ses nombreuses propriétés en France, ou je ne sais pas, mais pas beaucoup d'écho. Alors là, ça pose la question, est-ce qu'il s'est agi d'un coup d'État ou une scène de théâtre où on nous dit « Ah ben finalement, les bongos n'étaient plus présentables hein, » et pour éviter qu'il y ait une vraie révolution, c'est-à-dire un vrai coup d'État, on fabrique un coup d'État pour faire croire à l'opinion publique mondiale que ça y est, la dynastie Bongo est finie. Alors faire finir la dynastie Bongo avec... C'est comme si vous disiez, Louis XIII est mort, mais Richelieu a gardé le pouvoir, c'est une révolution. Oui, mon œil, c'est pas vrai du tout, c'est pas ça. Bon, alors ça c'est le Gabon. Alors le Gabon, il faut le situer, c'est quand même 2,5 millions d'habitants, dépendant beaucoup du pétrole, puisque le Gabon en a beaucoup. Hein. Pétrole qui d'ailleurs a été exploité pratiquement tout le temps par la France, donc Elf, puis devenu Total depuis, qui n'est pas spécialement bien exploité d'ailleurs, parce qu'ils pourraient produire plus, ils ne le font pas. Mais il faut savoir que dans les règles du jeu instaurées entre Elf à l'époque, qui était un outil de la politique coloniale, et le gouvernement gabonais, donc avec Omar Bongo, une grosse partie de la redevance que, comme tout pétrolier, Elf paye à l'État qui possède le pétrole, sur son sol, une bonne partie de cette redevance, au lieu d'aller dans les caisses du Trésor ou de la Banque centrale gabonaise, aller directement dans des territoires fiscaux sur les comptes de la famille Bongo. Alors effectivement, ça fonctionnait comme ça. Et donc, dans la mesure où il y avait assez de pétrole pour alimenter les comptes de la famille Bongo laissait les choses se faire, ça lui convenait très bien. Bon, ça, finalement, ça fait un peu, ça se sait, ça fait discuter. Alors, ça rend plausible l'idée d'un coup d'État. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu sortir des leaders de gens du mouvement populaire, de la population gabonaise, disant « il y en a assez des Bongos ». On a vu tout à coup un monsieur disant « c'est pas lui, c'est moi ». Ah bon ? C'est un changement, voilà, changement de scène, hein, et puis c'est tout. Donc on a une espèce de comédie africaine qui se joue et qui est une réponse aux autres cas que j'ai évoqués qui ne sont pas là des comédies. C'est-à-dire que ni dans le cas de la Guinée, ni dans le cas du Mali, ni dans le cas du Niger, il s'agit d'une comédie. Il s'agit d'un vrai mouvement porté par la population et soutenu à longueur de journée par la population, qui met à sa tête un ensemble de gens dont certains ne sont pas forcément recommandables, c'est tout à fait clair, mais qui se disent bien, et c'est ce qui doivent être d'ailleurs, des équipes de transition. Cette équipe de transition, elles doivent préparer la suite tout autant, et elles préparent la meilleure suite possible, tout autant que le mouvement populaire continue à les appuyer. C'est-à-dire tout autant qu'elles ne prennent pas des décisions qui trahissent les aspirations populaires. C'est ça qui va se jouer. C'est en cours, c'est pas fini, mais c'est ça qui se joue. Voilà pour le Gabon. Et puis on en arrive, alors là, c'est même plus un faux coup d'État, c'est un coup d'État probable. Et on descend d'un cran sur la carte à l'État qui suit sur la carte le Gabon, qui est le Congo-Brazzaville, l'ancien Congo français. Voilà. Alors là, on a affaire à un État un peu plus grand que le Gabon, assez riche en pétrole lui aussi, qui comporte, il y a 5 millions d'habitants, alors qu'au Gabon, il y en a 2,5. Bon, c'est un peu plus important. Mais alors, l'histoire politique de la colonisation française au Congo est encore plus gratinée, j'allais dire, pour utiliser un terme un peu plus populaire, que l'histoire du Gabon. C'est-à-dire que c'est un pays où, depuis l'indépendance fictive accordée par les gaullistes en 1960, est passé de coup d'État en coup d'État, avec finalement un monsieur qui en a fait plusieurs, et que des coups d'État, qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, hein, et qui, pour l'instant, tient bien le manche. Hein. Alors, quand on annonce qu'il va falloir, ou on envisage une transition démocratique, une ouverture populaire et tout, au Congo-Brazza, on se demande si ce n'est pas la France qui organise ça pour lui dire « Fais quelques gestes, on va t'aider, sauve la baraque avant qu'elle explose. Hein, » parce que ça ressemble beaucoup, beaucoup à ça. Ouais. Hein. Parce qu'il faut savoir que M. Denis Sassou Nguesso, donc président plusieurs fois avec du sang sur les mains à chaque fois, c'est-à-dire président avec l'aide de milices armées, lourdement armées, qui a toujours mis la main sur le pétrole congolais, hein, là, est un monsieur dangereux, prêt à tout. Et il a même éliminé, je cite son nom, parce que de toute façon il est décédé depuis, le seul président élu démocratiquement assez proprement au Congo-Brazza, c'était M. Pascal Lissouba. Et M. Pascal Lissouba, c'était un espèce de personnage qui n'était pas très à son aise sur la scène politique, en ce sens qu'il était d'abord agronome de formation, spécialiste en génétique botanique, donc il faisait des hybridages de semences, de plantes, etc. Et au fond, il a passé sa vie entre des postes officiels et puis ses recherches scientifiques qui le passionnaient. Et on raconte, et c'est vrai, et c'est un personnage assez sympathique de ce point de vue, qu'il était président, mais il allait à la fac faire des séminaires. Et il s'asseyait au milieu des étudiants. Ben, il n'avait pas de protection, des gorilles, des ninjas autour de lui. Voilà. Mais lui, Sassou Nguesso ne l'a pas supporté. Et donc, il l'a mis à la porte. Hein. Ah. Alors le pli était tellement mal pris dans ce Gabon que le passage au pouvoir se faisait, en fait, par coup de milices interposées. C'est-à-dire, Sassou Nguesso avait toujours ses milices, mais du coup, Lissouba, quand il voulait protéger son pouvoir démocratique, il était obligé d'en embaucher une lui aussi. Et puis, il y avait un troisième personnage qui était le troisième concurrent pour occuper le poste de président du Congo, qui s'appelait Kolelas, qui avait aussi sa milice. Et finalement, le jeu politique, c'était laquelle des trois milices avait éliminé l'autre. C'est assez pauvre comme tradition démocratique, c'est même inexistant comme tradition démocratique. Bon, on en est là de ce Congo. Alors, qu'on annonce maintenant, parce que les Congolais le savent, ils savent tout ça, et ils ont eu... Alors, il y a eu d'énormément de vigues, parce que les affrontements entre milices dont je vous parle, quand il s'agissait de changer de président ou de premier ministre, c'était du 20-30 000 morts chaque fois, c'était pas une bavure dans la rue, c'était à cette échelle-là. Et tout le monde avait des armes. Et d'où venaient-elles? Et comment elles étaient payées? Ça, le silence total règne là-dessus. Bon. Alors, comment on va sortir de cette situation-là? Effectivement, il y a des gens qui se disent, un jour, ça va éclater. Parce que la population le sait, elle en a souffert. Il n'y a pas de famille du Congo qui n'ait pas eu des morts dans ces affrontements entre milices. Hein. Alors, ils se tuent entre miliciens. Ils avaient chacun pris leur risque. Mais on allait dans le village qui était tenu par Pierre-Paul ou Jacques, et on éliminait les gens du village, parce qu'ils étaient du côté de telle ou telle milice. Ouais. C'était ça aussi. Hein. Tout ça derrière le fait que celui qui arrivait au pouvoir, il avait le pouvoir sur le pétrole. Et donc, c'était bien, il était assuré de ses arrières et sa caisse était pleine. C'est allé, alors, tenez-vous bien, donc ça c'était du pétrole français, hein, donc du pétrole Elf devenu Total, qui est mal exploité aujourd'hui. Il faut savoir que les capacités pétrolières du Congo sont beaucoup plus importantes que la production actuelle. Et c'en est au point, tenez-vous bien, que la seule raffinerie de pétrole qui existait sur le sol congolais, qui avait donc été édifiée par une société française à la demande de Elf, produit de moins en moins de carburant, de moins en moins, au point que Sassou Nguesso lui-même a été obligé d'accepter il y a 2 ans la proposition d'une société chinoise pour faire une raffinerie deux fois plus grosse que la raffinerie française parce que l'autre ne fonctionne pas. Alors, où en est-on, hein? C'est-à-dire désorganisation complète, corruption complète, etc. Et les Chinois sont venus dire, vous faites une usine, on vous fait ce qu'il faut, du gasoil, du kérosène, du carburant et tout, puisque vous n'arrivez plus à le faire avec la société que vous avez vous-même créée. Hein. Voilà. Donc, un pays dans un état de décomposition avancé. Je vais même citer une dernière anecdote pour parler du Congo tel qu'il a été. À un moment donné, et ça explique un peu une situation, la situation régionale. À un moment donné, et vous verrez sur la carte si vous l'avez sous les yeux ou regardez-la après, vous avez peut-être entendu parler de l'enclave de Cabinda. Alors l'enclave de Cabinda, c'est un morceau de l'Angola. Alors l'Angola, je le situe par rapport à l'estuaire du Congo, l'estuaire du Congo qui débouche sur l'Atlantique. C'est dans la République du Congo Kinshasa, comme on dit, mais en fait la fenêtre du Congo Kinshasa sur l'océan Atlantique est toute petite. C'est un tout petit bout juste autour de l'embouchure. Il se trouve qu'au sud de l'embouchure, c'est l'Angola, et au nord de l'embouchure, c'est Cabinda. Or Cabinda est revendiqué, est occupé par les Angolais depuis les origines. Eh bien, il faut savoir que les services secrets français ont organisé à un moment donné un front de libération de l'enclave de Cabinda pour voler le Cabinda à l'Angola. On en était là. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'on était à une période où la révolution portugaise avait permis l'arrivée au pouvoir des indépendantistes angolais, mais dans les indépendantistes angolais, il y avait deux camps. Il y avait un camp pro-soviétique, pour faire simple, et il y avait un camp pro-américain de l'autre côté. Bon. Et en fait, la France de Giscard d'Estaing soutenait évidemment le candidat pro-américain, donc Savimbi, le dirigeant de l'UNITA. Et donc, au passage, ils auraient dit, on enlève le Cabinda avec son aide à l'Angola et on l'incorpore dans la République du Congo-Brazzaville. Et donc là, c'était, on mettait la main sur ce qu'on appelait à l'époque, et que les pétroliers continuent à dire comme ça, le Koweït de l'Afrique. C'est-à-dire un tout petit territoire sur lequel, chaque fois qu'on fait un trou, il sort du pétrole. Un bonheur, hein, pour quelques centaines de milliers d'habitants. Bon. Ça n'a pas eu lieu. Mais je cite cette anecdote qui est connue, qui a été reconnue, bon, on n'a jamais été contestée, pour savoir à quel niveau de corruption, de mensonge est capable d'arriver la République française coloniale, c'est-à-dire favoriser un front de libération nationale. Alors quand vous voyez arriver, il se crée un front de libération nationale, allez voir d'un peu plus près. Ce n'est pas forcément un vrai front de libération nationale. Ça peut être un coup tordu d'une puissance qui fait que telle partie du territoire passe à l'ennemi. Bon. Tout ça mérite d'être connu par rapport au Congo. Alors quand on annonce ces derniers jours qu'il est envisagé un coup d'État au Congo-Brazzaville, on se dit que c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. Hein. Et qui se charge de faire circuler ce genre de nouvelles? C'est les médias aux États-Unis. Ah! Alors eux aussi, ils doivent se dire, Sassou Nguesso, d'abord il est allé au sommet Russie-Afrique en juillet à Leningrad, enfin à Saint-Pétersbourg. Ça a peut-être plus ou moins plu. Hein. Est-ce qu'il est vraiment encore aussi sûr? Est-ce qu'il n'est pas en train de poursuivre son intérêt personnel? Est-ce que le fait que Sassou Nguesso soit le pion de la France dans cette zone-là fait que l'image de la France étant beaucoup affaiblie à Washington, on se dit il faut préparer la suite et on commence à annoncer des préparatifs d'un coup d'État dont on vous dit, alors là la marque de fabrique elle est tellement évidente, il sera démocratique. Ah bon ? Ah bon ? Alors quand la propagande des États-Unis, j'organise un coup d'État démocratique, alors ça va, les droits d'auteur on sait qu'il va les encaisser, c'est presque risible tellement c'est cousu de fil blanc. Hein. Bon, alors je ne sais pas s'il y aura un vrai coup d'État au Congo, mais je pense que l'étoile de M. Sassou Nguesso, qui est là, alors il n'a pas toujours été au pouvoir, puisqu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu Lissouba qui a été président, etc. Bon, mais il est là depuis pratiquement, enfin, peu après l'indépendance, les années, fin des années 60. Bon, donc il a fait son temps, et je pense qu'il a aussi une grosse fortune là où il faut, il n'y a pas de souci pour lui. Hein. Mais il est peut-être en train de filer un mauvais coton, le fait d'être allé à Saint-Pétersbourg serrer la main à Poutine. Lui.
Est-ce qu'il n'y a pas une orientation, l'Afrique tout entière d'ailleurs?
Peut-être, on ne sait pas. Oui, alors, Afrique, ah oui, alors, Oui, Habib me dit, est-ce qu'il n'y a pas une orientation ? Ben, il y a une orientation qui est claire. Le bilan de ce que tout je vous raconte, les vrais soulèvements populaires qui amènent à un soutien à un coup d'État militaire, donc je pense au Mali, je pense au Burkina, je pense au Niger, bon, cela dérange effectivement l'Occident, puisque c'est la France qui se fait mettre dehors. Les États-Unis essayent de remettre le pied dans la mécanique. Alors, ils étaient déjà sur place. Je rappelle que la plus grosse base militaire américaine sur le territoire de l'Afrique, c'est à Agadez, au nord du Niger. La plus grosse balle en particulier, oui, pour l'usage des drones. Bon, donc on le sait. Oui. Donc les États-Unis, voyant que la France ne fait plus le travail de faire régner la discipline dans les colonies, dans ses colonies, est en train de se préparer à remplacer la France. C'est pas gagné. Parce que, d'abord, leur approche des problèmes, elle est classiquement que militaire. Et donc, quand ils ont affaire, d'une part, à une opposition de type militaire, alors on a parlé de Wagner ou de l'armée russe et tout, et puis quand ils ont affaire, effectivement, à des soutiens politiques, économiques venant de grosses entreprises qui ne sont pas des entreprises des États-Unis, effectivement, ils ne sont pas tout à fait à l'échelle. Donc, qu'il y ait des manœuvres des États-Unis dans tous ces pays-là, c'est l'évidence, des manœuvres politico-financières de coulisses. Mais rien ne dit qu'elles sont gagnantes. Parce qu'ils partent de loin, le terrain a été bien labouré dans le mauvais sens, enfin, la dynamite a été mise en place par la France. Après, il faut recoller les morceaux, c'est pas si facile. Hein. Et alors, je voudrais m'arrêter là-dessus parce que ça amène un certain nombre de gens qui sont pour cette émancipation africaine à dire « Oui, mais si c'est pour que les Américains prennent la place, ça vaut pas la peine ». Ça vaut toujours la peine. Un pays qui s'émancipe de son tuteur principal, il a progressé. Après, il aura un autre tuteur, eh bien, il passera au second. Chaque chose en son temps. Mais voilà, exactement. Mais on ne peut pas demander à une population comme la population du Niger de s'en prendre à la fois, et avec réussite, à la fois à la France impériale et aux États-Unis d'un seul coup. Hein. C'est trop gros pour eux. C'est trop à faire. Donc ils disent pour l'instant, ben, on s'appuie peut-être un peu sur les États-Unis. On verra après. Pour l'instant, on se débarrasse de la menace principale, hein, qui est là parce qu'on la voit. Voilà. Non ?
Oui, et puis ce n'est pas à nous de décider pour les Africains. En plus, s'ils veulent faire quelque chose avec les États-Unis, mais ça tout les à regarde. Fait,
voilà.
Alors je voulais ajouter qu'il y avait depuis 2-3 jours une nouvelle coalition qui s'appelle
voilà, tu fais bien.
L'AES,
voilà.
L'Alliance des États du Sahel, donc est une alliance entre les trois pays du Burkina Faso, du Mali et du Niger.
Et du Niger.
Voilà, pour
alliance militaire, une alliance clairement militaire.
Si l'un des États est agressé...
Tous sont agressés, un pour tous, ou oui, tous pour va. Un. Non, c'est oui, tout à fait clair. Et donc, ça va nécessairement amener les tenants de l'opération menée par la CEDEAO, en pratique confiée directement à Alassane Ouattara, à réfléchir en disant « Ah oui, mais là, on n'est peut-être pas aussi costaud qu'on le pensait. La France nous disait d'aller au charbon, j'allais dire, contre les voisins. Là, s'ils tombent tous les trois ensemble, ça risque de devenir beaucoup plus délicat. » Et on en est réduit. Alors, ça c'est d'ailleurs dans un certain commentaire de la presse spécialisée ou d'un journaliste spécialisé que je crois qu'on a parlé tout à l'heure, j'ai sous les yeux, qui dit qu'il ne reste plus au fond du côté des atouts français pour essayer de maîtriser cette situation que la Côte d'Ivoire, qui est effectivement l'élément central, le Bénin, même pas, non, parlons de l'Afrique surtout équatoriale, le Bénin, ça peut aller encore avec Patrice Talon. Le Togo, je suis beaucoup moins sûr du Togo, parce que le Togo, bien qu'il soit gouverné par quelqu'un qui est le fils de celui qui a pris le pouvoir par le sang, par l'assassinat, tout de suite après l'indépendance, hein, rappelez-le, hein, en assassinant Sylvanus Olympio. Bon. Et puis, le dernier, c'est le Ghana, dont je ne suis pas sûr non plus. C'est-à-dire qu'en fond, le clan français et la diplomatie donc, du Quai d'Orsay et de Macron, c'est de s'appuyer principalement sur la Côte d'Ivoire. Le reste sont des alliés plutôt pas sûrs. Hein. Ça veut dire pas grand-chose. Ça veut dire pas grand-chose. Et quand on ajoute ce qu'on sait, et on y reviendra avec un expert dans les semaines qui viennent, quand on sait que les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire ont été totalement trafiquées et que la majorité de la population le sait, on pense que ce dernier point d'appui de la France-Afrique est très très faible en fait. Bien qu'il s'affiche comme étant le leader de ce qui reste de la coalition anti-Niger. Il n'y a plus la coalition anti-Niger, elle tient pas sur le elle est encore affichable sur le papier. En réalité, elle n'est plus présentable politiquement. Elle est morte.
Il n'y a rien de fait. Hein.
Mais il n'y a rien de fait. Et quand les autres qui ont très bien compris, les trois autres qui disent, nous, on a une alliance militaire, et on dit que c'est une alliance militaire, et celui qui est touché sera défendu par les deux autres, bon, la réponse, elle est parfaitement claire. Il ne reste plus que la diplomatie, les négociations. On ne parle plus d'armes et on ne fait pas s'entretuer des Africains entre eux. La leçon me paraît claire, mais on y reviendra parce que ces secousses, hein, que ce soit la secousse gabonaise, la secousse congolaise, qui n'a pas eu lieu, qui a peut-être eu lieu, qui aura peut-être lieu, on ne sait pas, ça c'est une hypothèse, peut avoir lieu parce qu'effectivement, ce pays extrêmement riche hein, a une partie de sa population qui est dans un état de pauvreté extrême. Ouais. Et la solution, c'est de traverser le Congo et d'aller à Kinshasa. Hein, parce, bon, c'est tout à fait clair. Bon, donc, à voir, mais l'onde de choc se propage plus en plus sur la totalité de l'Afrique. Bon. Ouais. Un dernier mot sur un État africain qui est juste à côté, le Tchad. Alors, c'est très intéressant parce que le Tchad, on sait donc que le président Idriss Déby, qui avait été longtemps le favori de la France, avait réussi à mettre sur pied une armée qui fonctionnait à peu près. Elle fonctionnait peut-être trop bien aux yeux du colonisateur qui a dit que ça lui donnait une certaine autonomie de décision et que c'était regrettable. Il a disparu dans des conditions extrêmement douteuses, hein, je rappelle, et on a mis dans des conditions anticonstitutionnelles son fils à la tête du pays. Bon. Donc ça aussi, ça c'est une intervention coloniale française tout à fait caractéristique. Alors il se trouve que le Tchad a un nouveau rôle à jouer, qu'il a déjà joué à d'autres périodes, c'est-à-dire que le Tchad, sur sa frontière orientale, il est collé au Soudan et en particulier à la province du Darfour. Ouais. Et ça nous amène à dire quelques mots de la situation au Soudan. Ouais. Alors au Soudan, il y a donc le régime du général Bourhan, qui est officiellement au pouvoir, qui en fait passe de plus en plus une partie de son temps à Port-Soudan, c'est-à-dire en dehors de la capitale, pour éviter de se trouver au milieu des tirs organisés par son concurrent, le fameux chef. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que pour l'instant, il y avait équilibre des forces militaires et que les forces du prétendant au pouvoir, donc Dilinga, étaient en train d'aller au Darfour pour y faire non pas la paix, mais pour y recruter des gens et pour tuer tous ceux qui ne voulaient pas être recrutés. Et donc résultat, on a déjà une chose qui s'était passée au moment de la guerre civile, la longue guerre civile soudanaise, la population du Darfour qui veut sauver sa peau passe au Tchad. Et le Tchad, lui, est en capacité de laisser ces gens rentrer et ne pas laisser la milice soudanaise aller plus loin sur son territoire. Voilà. Dernier élément intéressant, et on y reviendra puisque j'aurai l'occasion de faire une interview d'un ancien ambassadeur de France à Khartoum là, dans quelques semaines, donc on y reviendra un peu plus. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans les journaux des États-Unis, je veux dire la presse qui donne la température washingtonienne, j'allais dire, il est dit que le général des milices, là, se livre à des comportements qui, du point de vue des droits de l'homme, sont discutables. Ça veut dire que Washington, qui au début, je pense, l'a soutenu, est en train de se dire que ça ne va pas être possible de le soutenir encore très très longtemps, et donc on s'apprête probablement à le laisser tomber. Hein, parce que quand à Washington, on écrit dans le Post ou dans le New York Times « ce monsieur porte des atteintes aux droits de l'homme », ça veut dire que son compte est pratiquement réglé. C'est qu'une question de temps. Je le souhaite pour la population soudanaise, pour la population de Khartoum qui est dans les tirs tous les jours. Et, voilà. Et je le souhaite aussi pour les voisins du Soudan qui ont bien besoin de tranquillité, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit le Tchad de l'autre côté. Il y a là un abcès qui, je pense, alors après des milliers de morts, puisque c'est hélas le cas depuis le printemps, devrait petit à petit commencer à se résorber. Le lâchage, ce que j'interprète comme un lâchage du département d'État, c'est-à-dire le fait que la presse officielle à Washington dit que ce monsieur n'a pas les mains très très propres, ça veut dire que je pense que le soutien va s'affaiblir. Souhaitons-le. C'était tout, je pense, pour l'Afrique. Ah si, quand même. Alors, j'allais faire un lien avec la Libye. J'allais faire un lien avec la Libye, voilà, c'est l'Afrique. Un double lien d'abord, parce que le fait qu'on vous a beaucoup moins parlé des conséquences donc, du tremblement de terre et de la bourrasque dans l'est de la Libye, qu'on vous a parlé du Maroc. Or, il est avéré aujourd'hui que le nombre de morts, si c'est ça l'unique unité de mesure, mais c'en est une, est beaucoup plus élevé en Libye qu'il ne l'est au Maroc. Voilà. Et le problème qui se pose, et c'est visible maintenant, ça commence à apparaître sur certaines chaînes, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas d'État libyen globalement en charge de la totalité du territoire libyen, vous savez qu'il y a en gros deux pouvoirs politiques, un à l'est où s'est déroulé le séisme et les inondations, et l'autre à l'ouest qui est le gouvernement officiellement reconnu par l'Occident, en fait, il n'y a pas de gouvernement de la Libye. Il y a des pouvoirs militaires, militaro-civils qui se disputent le pouvoir. Et donc, par rapport à une catastrophe naturelle, ce genre de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir pour prendre en charge le déblaiement, les évacuations, les soins, etc.
Et c'est une population très appauvrie.
Très appauvrie. Très appauvrie après.
5 millions d'habitants.
Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et donc, en fait, les conséquences, n'importe quel sinistre, mais c'est vrai dans ce cas-là plus que d'autres, un gouvernement qui n'a pas de pouvoir ou qui est inexistant concrètement ne peut pas prendre de bonnes mesures pour sauvegarder une population victime d'une catastrophe naturelle. On le sait, et c'est prouvé encore une fois. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement marocain fait tout ce qu'il peut. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ça, le gouvernement marocain et le Maroc, on vous en parle à longueur de journée sur tous les médias. Alors, je voulais parler un peu de la Libye pour que vous puissiez donner une proportion juste à ces événements-là. Et ce qui m'a amené à parler de la Libye, c'est qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, la Libye est le deuxième producteur de pétrole d'Afrique. Je dis bien aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien sûr, sous la protection de milices lourdement armées, les puits de pétrole fonctionnent, les ports d'embarquement fonctionnent. Ouais. La Libye avait, on le savait, elle a toujours un énorme potentiel pétrolier, mais c'est du pétrole semi-clandestin, c'est du brigandage international. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés très jolies avec pignon sur rue, hein, conseil d'administration à Washington, à Londres, etc., mais qui volent le pétrole libyen sous la protection de milices. La milice elle-même, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle protège le port, elle protège les puits, et puis elle prend sa commission. Et donc, avec sa commission, elle va se fournir en armes sur le marché international. Par exemple, en Ukraine, puisqu'il y en a beaucoup qui traînent, ou ailleurs, peu importe. Hein. C'est plus un pays, la Libye. Mais elle arrive, alors, dans les statistiques pétrolières. Au fond, les pétroliers sont contents, puisque, d'abord, ils n'ont pas beaucoup de redevances à verser à un État central. Ils payent la milice parce qu'elle leur sert de garde du corps. Et puis, ils vendent sur le marché international. Et tout le monde ferme les yeux. Je n'ai vu aucune décision, aucun débat de l'ONU disant « Le pétrole arrive en Libye, il a les mains sales, on ne le prend pas ». Non, non, on prend. Parce que, en plus, comme il n'y a pas de redevances à l'État et que les redevances aux milices sont évidemment plus faibles que les redevances à un État libyen qui fonctionnerait, le pétrole libyen, frauduleux, volé, est probablement commercialisé moins cher que les autres.
Comme en Syrie.
Pareil.
Par les Américains.
Exactement.
Qui volent le pétrole et il n'y a pas de redevances.
Et voilà. Voilà le résultat. Ça, c'est des... Alors, ça, c'est pas de la politique, c'est de l'économie capitaliste bien comprise. Hein. Ah. Les voleurs font de l'argent sur le dos des citoyens. C'est tout à fait clair. Et ça amène à cette citation, donc à cette statistique du pétrole africain. L'Angola est aujourd'hui la première puissance pétrolière africaine. La Libye est numéro 2. Numéro 2, alors pas pour les secours aux réfugiés, hein, mais pour le pétrole. Le troisième, c'est le Nigeria. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le Nigeria ? Un mot encore. Il s'est passé que le Nigeria était en tête, un énorme potentiel pétrolier était en tête. Le problème, c'est que le Nigeria est un État trop grand par rapport à la capacité de son État à le gérer. C'est-à-dire qu'il y a du vol de pétrole partout. C'est tout à fait ça. Alors, le pétrole brut, ça a cet avantage que ça ne prend pas feu spontanément. Il faut, comme le gasoil, il faut 400-500 degrés pour que ça prenne feu. Donc en fait, si vous arrivez dans un endroit discret dans la forêt à faire un trou dans un pipeline et à brancher un petit tuyau et un robinet, vous pouvez très bien le faire. Et vous risquez... Vous,
et ça existe.
Et ça existe. Et vous courez très peu de risques si vous n'êtes pas pris. Hein. Donc aujourd'hui, alors je voulais vous citer des chiffres qui sont absolument hallucinants. Le gouvernement nigérien donc, est tellement conscient de cette situation qu'il vient de lancer une opération militaire en disant « il y en a assez ». Je suis potentiellement le premier producteur de pétrole d'Afrique avec d'énormes réserves et tout. Et en fait, je suis maintenant le troisième et je n'arrête pas de perdre de la place. Parce que le pétrole qui est extrait sur le sol du Niger, il n'arrive pas jusqu'au port. Il s'évapore en route. Ils ont lancé une opération militaire où l'armée nigériane a détruit 90 raffineries sauvages. Vous entendez bien, 90 raffineries sauvages. Alors, une raffinerie sauvage, ça ne ressemble pas à nos raffineries qu'on a autour de l'étang de mer et tout, mais c'est possible, avec des moyens techniques limités et quelques experts qui sont là pour ça, de faire une petite raffinerie, c'est-à-dire on fait un trou dans le pipeline officiel, hein, et puis après on va vous livrer du carburant d'à peu près qualité correcte pour mettre dans le moteur de votre voiture ou pour mettre dans le moteur de votre avion. 90 raffineries illégales.
Illégales.
Bon. Et donc, du coup, c'est très intéressant. Alors, ça se passe principalement dans une province qui est la province sud, qui s'appelle la province de Port-Harcourt, enfin, là où il y a le principal port pétrolier nigérian. Mais ça veut dire que le gouvernement nigérian, et c'est ça aussi les limites de la fameuse CEDEAO, vous avez affaire à des gouvernements qui ne gouvernent même pas chez eux, ou pas tout. La preuve, c'est que là, une partie de l'économie pétrolière, elle est entre les mains de voyous. C'est tout. Bon, alors, on peut bien dire, le Nigeria, c'est
très... C'est un grand pays, quand même, une grande superficie.
Mais oui, c'est grand et très peuplé.
Le nord et le sud.
Oui, oui.
Il y a plus de 100 millions.
Plus de 100 millions d'habitants. Mais en fait, c'est un pays où il y a un État très faible par rapport à ce qu'est le pays, sa taille et sa population.
Et le nord, par rapport au sud, c'est les plus pauvres. C'est des gens qui souffrent.
Voilà. Et comment on fait en Occident quand on veut qu'un pays pareil, qui a un énorme potentiel, donc plus de 100 millions d'habitants, pas mal de gens qui font des études, même s'ils les font à l'étranger, qui est majoritairement pour les gens éduqués anglophones, ce qui donne la possibilité d'aller dans les universités britanniques, aux États-Unis et tout, vous avez affaire à un pays qui est mal gouverné, et où... On rappelle à l'occasion que le gouvernement n'est pas si fort parce qu'il y a une milice islamiste qui fait régner la terreur dans certaines régions.
C'est Daesh toujours.
Voilà, c'est tout. Alors on appelle ça, voilà.
Ouais.
Autrement.
C'est des gens, oui, c'est des, comment on appelle,
ouais, non, une faction. Oui, oui, c'est une faction. Bon, ça s'appelle Boko Haram.
Al-Qaïda, hein, ou
voilà. Daesh, mais c'est toujours la même mécanique, c'est-à-dire un pouvoir africain ou moyen-oriental qui essaye de s'émanciper, d'être maître de ses destins, et qui, pour être maître de son destin, veut prendre ses distances par rapport à l'empire colonial occidental, on lui suscite une opposition et on lui rend la vie difficile. Parce que qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va essayer d'éliminer la fameuse milice Boko Haram, il va acheter des armes, comme par hasard il va les acheter à l'endroit d'où on vous dit qu'il y a une menace, etc. etc. Et donc on le fragilise, et cet objectif de répression, de mesures de police à prendre, l'écarte d'objectifs plus généraux de satisfaire les besoins de sa population, que ce soit en termes d'éducation, en termes de santé, etc. C'est une façon d'épuiser un pays. Vous lui laissez une milice qui pendant des années, ça fait longtemps que Boko Haram sévit, et bien il y a une partie de son intelligence, de ses ressources, qui passe à combattre ce mal. Et qui, donc,
ils sont très bien payés. Ils sont payés, par exemple, moi je sais qu'en Syrie, une personne de Daesh qui combat le pouvoir politique, il est payé 10 fois plus qu'un militaire syrien. Je dis 10 fois plus.
Peut-être plus.
Voilà. Oui.
Voilà. Donc c'est ça la réalité. Alors ce qui amène ce Nigeria, cette énorme puissance qu'on nous présente comme telle, qui en a les possibilités, ne peut pas devenir une puissance, hein, parce qu'on en empêche par tous les moyens. Hein, que ce soit donc libre cours à la piraterie, les 90 raffineries illégales, le terrorisme islamique, tout ça fait un État qui a de la peine à tenir debout, à mener une politique de long terme, tranquille, pour le bien-être de sa population, qui est très très importante. Voilà pour l'Afrique, je pense que c'est tout et ça suffit pour aujourd'hui. Je regarde l'heure tranquillement. Tu as commencé à évoquer la situation en Syrie, donc on peut donner quelques infos sur la situation en Syrie. Vas-y, je t'écoute.
Oui, je voulais dire qu'en Syrie, actuellement, il y a un problème très très urgent. Il faut en parler, la Syrie est en danger. L'Amérique, l'OTAN et particulièrement la France... participe à un démantèlement. L'objectif, c'est mettre la pression sur le peuple syrien économiquement par la pratique de l'énergie et l'application de la loi César par les Américains. Alors, ils pensent ainsi presser le peuple syrien à créer une lutte contre le pouvoir politique. Placés ainsi, ils veulent créer des petits États comme en Yougoslavie à l'époque de Tito. Voilà. Alors, il y a Idlib, l'opposition armée syrienne chapeautée par la Turquie, l'occupation par les Américains du pétrole qu'ils le volent. Ils volent le pétrole syrien, le blé et le coton. C'est le nord de la Syrie, Al-Hasaké, tout ça. Bon. En utilisant évidemment comme partenaire le Kurde Kassad, c'est une partie des Kurdes, c'est pas tous les Kurdes.
Non, non, bien sûr.
Enfin, voilà. Donc, et puis, ils utilisent aussi l'opposition syrienne.
Ouais.
Ce sont des anciens déserteurs de l'armée syrienne. Bon. À ces jours, donc, il y a eu des manifestations à Souaïda contre la vie chère et non pas contre le séparatisme. Voilà. Alors, le peuple syrien, quelle que soit la région, subit le même rigueur.
Bien sûr.
Que ce soit Homs, Hama, Damas, c'est la même pression sur le pouvoir d'achat des Syriens. Donc, comme j'ai dit, les Américains profitent pour contracter un des prêtres druzes à Souaïda. On n'a rien contre les druzes, c'est nos frères. Et en principe, ils sont la plupart contre le séparatisme.
Mmh.
Donc, c'est un prêtre, je ne sais pas, bon, qui est là. Et qu'il y a eu quelqu'un du gouvernement de Biden qui l'a contacté pour essayer de mettre en cours la perturbation en Syrie. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en Syrie, il y a énormément des ethnies. Il y a les musulmans sunnites, les druzes, les chiites, les yazidites, les kurdes, les assyriens, les chaldéens, etc. Il y a énormément. C'est pour cela que les Américains essayent d'utiliser ces gens.
Toutes ces divisions.
Bon. Donc il faut que le peuple syrien soit conscient de ce que les Américains et surtout l'OTAN, qui veulent diviser la Syrie en plusieurs États, et c'est les souhaits, vraiment les souhaits de l'État d'Israël.
Bien sûr.
Pour pouvoir jouer toujours le gendarme dans le Moyen-Orient. Voilà, c'est tout ce que j'ai...
Et bombarder à l'occasion un aéroport.
De temps en temps, et chaque mois pratiquement. Bon, ils bombardent, mais bon, le gouvernement, l'armée syrienne ne peut pas tout faire.
Exactement.
Elle est au nord de la Syrie, particulièrement sur une frontière de 800-900 kilomètres.
Oui, oui.
Et puis, heureusement, actuellement, il y a des mouvements au nord de la Syrie. Ce sont des mouvements des tribus arabes qui sont pour la patrie, qui luttent pour la patrie. Alors, ils luttent contre Kassad, qui est entraîné par les Américains, qu'on leur fournit des armes. Temps en temps, dans les camps de concentration, on prend des gens des Daesh, et puis pour faire des kamikazes.
Le sale boulot.
Voilà. Des sales boulots, exactement.
Voilà. Oui, donc il faut savoir, c'est connu qu'il y a un tiers du territoire syrien officiel qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement syrien. C'est bien ça que les États-Unis ne veulent pas voir changer. C'est tout à fait clair. Et c'est ça l'objectif. Et il est clair, du point de vue des alliés de la Syrie, c'est parfaitement clair que les frontières doivent être respectées, que ce soit la Russie, l'Iran et tout. Et même pour l'ONU, l'ONU ne peut pas faire de grosses erreurs parce que l'ONU, et ça a encore été rappelé ces derniers jours, reconnaît que le Golan est un territoire syrien occupé. Donc la position en droit est tout à fait claire. Après, il faut obliger ceux qui violent le droit, donc les États-Unis, l'Israël, les Kurdes d'Irak et certains autres, il faut obliger à ce que ces gens-là respectent le droit. Et ils ne le feront que si les États-Unis leur disent « on va respecter le droit ». Ça, c'est pas encore venu, mais nécessairement, c'est ça qui est sur la table, comme on dit. Cette question-là, respecter le droit international. La Syrie, non seulement est un État reconnu par l'ONU, mais la Syrie est un des plus vieux États du monde.
Exactement.
hein, bien avant l'ère chrétienne. Hein. On retrouve ça dans les cartes anciennes, des milliers d'années avant notre ère. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est ça qu'il faut faire passer dans les faits. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à tous nos auditeurs. Hein. Donc, ça, c'est très important à suivre parce qu'on en parle beaucoup moins. Parce que ça fait tellement longtemps que ça dure, ce conflit syrien, que les infos ne sont pas très nombreuses. Et puis, il reste...
On n'en parle pas beaucoup.
Il reste, bien, voilà, que vrai. Du côté, la France s'est tellement engagée du mauvais côté, c'est-à-dire du côté du démantèlement de la Syrie, c'est bien clair. Hein. Il faut savoir que, je cite un article récent que j'ai lu dans la presse britannique, qu'il y a un citoyen français qui a quitté en 2013 la France, la commune où il habitait, s'est engagé dans les brigades islamiques chez Al-Nosra.
Al-Nosra, bon. Ouais.
Et vient, a eu après, donc il avait 16 ans, entre-temps il a eu des enfants, et en fait, il est en train de quitter le territoire syrien où il sert de terroriste. Hein. Il est armé pour ça, payé pour ça, parce qu'il se rend compte que les deux enfants qu'il a eus sur place depuis qu'il est djihadiste n'ont pas d'avenir dans ces conditions lamentables dans lesquelles il se trouve concrètement. C'est bien joli, leur papa est payé pour faire la guerre, mais il n'y a pas d'école, il y a pas... on s'en fiche, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire des Émirats Arabes Unis, du Qatar, etc. C'est rien d'autre que ça. Et il vient de fuir en Turquie, et il a confié ses enfants à la Turquie en disant « Envoyez les enfants en France ». Ce que la Turquie a fait, elle l'a retenu lui pour négocier, je pense. Mais elle a envoyé les enfants et les enfants sont maintenant chez la grand-mère en banlieue parisienne et les enfants vont trouver une vie normale. Hein. Mais c'est des enfants de Al-Nosra, j'allais dire. C'est des enfants potentiels de Fabius. Hein, Al-Nosra fait du bon boulot. Al-Nosra détruit des familles. Al-Nosra envoie des jeunes gens de 16 ans tuer des autres, hein, sans savoir pourquoi. C'est ça, Al-Nosra. C'est ça qu'a défendu M. Laurent Fabius, officiellement, devant les télévisions. Hein. Et voilà ce que ça donne. Il y a deux enfants qui sont sauvés, mais il y en a sûrement d'autres qui mériteraient de l'être. Et leur papa aussi. Parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'ils pouvaient comprendre de la situation en Syrie à 16 ans, en 2013 hein. Rien. Rien. Il venait de se convertir, on lui a dit c'est ça qu'il faut faire, et il y est allé. Voilà. Et puis il avait un salaire, il était occupé, c'était bien. Voilà. Bon, c'est très très long, alors c'est facile, on en parle à la radio, c'est très très long de défaire toutes ces catastrophes accumulées depuis 10 ans maintenant, tous ces destins individuels brisés par notre position, les positions stupides de la France, c'est dur à refaire. Il y a beaucoup de casses humaines hein, chez les papas, chez les mamans, chez les enfants, tout ça est à reconstruire. Il faudrait encore que le gouvernement de la République française dise « Je reconstruis ». Ça a été fait, c'est un autre, c'est Fabius, c'est Juppé, je ne veux pas le savoir.
Il y a encore les réfugiés.
Mais bien sûr, en plus, il y a tous les réfugiés qui sont en Turquie.
En Jordanie, au Liban.
Tout à fait.
Et on les empêche de retourner, d'ailleurs, c'est clair. On les empêche.
Voilà. Donc là, il y a une vraie responsabilité française. Comme on dit, une République française peut critiquer ce qu'a fait la précédente, c'est déjà arrivé. On souhaiterait, mais on peut rêver devant les micros, on souhaiterait que la République de Macron passe l'éponge et oublie ce qui a été fait par la République Sarkozy, la République Hollande, etc., que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, etc. Il y a énormément à refaire, mais... S'il y a énormément à refaire, ce que je vous dis là, n'importe quel citoyen du Niger, du Burkina, le sait. Il sait que la France a les mains sales. Et c'est pour ça aussi que son étoile pâlit.
C'est pour ça que ça bouge en Afrique.
C'est pour ça que Macron est impopulaire. C'est parce que c'est Macron, mais c'est aussi Sarkozy en Libye, c'est aussi Hollande en Syrie, c'est Fabius disant qu'Al-Nosra fait du bon boulot. C'est ça que les jeunes Africains savent. C'est ça qu'ils crient en disant « on n'en veut plus, c'est pas cette France-là qu'on veut ». Alors moi, ce que je veux qu'on dise devant ce micro, c'est qu'il y a aussi des Français qui veulent la même chose. On ne veut pas de cette saleté-là. Hein, la République française, elle est sale, les mains sales du colonialisme, elle a les mains très sales. Pour nous, la France et ses 66 millions d'habitants, ils ont droit à un avenir plus respectable et respectueux des autres. C'est rien d'autre que ça, notre position à ce micro. Hein. Être respecté, avoir les mains propres, aider les gens à faire leur métier, les pays à se développer, et pas dire qu'on envoie un tel endroit pour détruire tel pays qui nous est hostile. Il nous est pas hostile, les Syriens n'ont jamais été hostiles à la France. Hein. Par contre, quand on leur envoie des tueurs, ils aiment pas, ils ont raison. Bien. Ah, je vois que l'heure passe. Alors, quel autre sujet est d'importance quand même. Il s'est tenu à La Havane... ces derniers jours, un sommet du G77.
17, hein,
alors, le G77, c'est donc beaucoup plus que 77, j'ai évoqué le chiffre l'autre jour, à peu près 150 pays membres de l'ONU, c'est les 150 les moins riches, pour faire simple. Hein. Donc il y a tout
quand même, il y avait la Chine. Hein.
Alors, mais la Chine ne fait pas parler, elle n'est pas dans les moins riches. Simplement, les 77, dont la Chine ne fait pas partie parce qu'elle n'est pas dans les pauvres, dans les pays pauvres, elle dit, vous êtes mes amis, je vous défendrai, parce que pourquoi je vous défends? Parce que je sais que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dont vous voulez sortir, c'est la situation dans laquelle je me suis trouvé quand je suis arrivé au pouvoir, moi, Parti communiste chinois, en 1949. C'est-à-dire, j'étais à la tête d'un pays dévasté par la Deuxième Guerre mondiale, dévasté par les Japonais, dévasté par la guerre civile menée par Chiang Kai-shek contre le Parti communiste chinois, avec 400, presque 500 millions d'habitants à l'époque, ne mangeant pas tous les jours à leur faim, n'allant pas tous à l'école et tout. Donc la Chine dit, moi je comprends très bien vos aspirations, parce que je suis sorti de ça par un effort gigantesque de plus d'un demi-siècle, hein, et je veux que vous fassiez la même chose. Vous avez le droit à vous développer comme j'ai pu le faire moi-même. Mais vous êtes plus petit, parce qu'il y a là-dedans des pays qui ont 2, 3, 4 millions d'habitants, il y a l'Afghanistan, etc. L'Afghanistan, d'ailleurs, je signale que la Chine vient de créer un poste d'ambassadeur à Kaboul. Elle est le premier pays du monde à avoir un ambassadeur à Kaboul. Nouvelle formule. Parce qu'ils disent, bon, les talibans, ils sont ce qu'ils sont. Hein, mais on a un ambassadeur pour montrer qu'on comprend leurs problèmes. Hein, on n'est pas des islamistes, pas du tout, mais on comprend leurs problèmes. Si on peut les aider économiquement, matériellement, on le fera. Hein, on est juste à côté, on a un petit morceau de frontière commune, on communique facilement. S'il y a des projets économiques en commun, on les mènera, on investira. Et si on investit et que les talibans disent on est d'accord pour investir, ça veut dire qu'ils ne mettront pas le feu à nos installations. Ils participeront, on fera travailler des Afghans dans nos usines, etc., ou dans nos mines. C'est comme ça que ça se remet en marche progressivement. Et ça, ils peuvent le faire à peu près dans tous les pays membres du G77. Ils le font déjà. Consiste à dire,
Moi, j'ai dit que c'est une très grande réussite pour Cuba.
Tout à fait. Et donc, que ça se tienne à Cuba, ça en dit long. Ouais. Hein, et ça en dit long sur la motivation de la Chine. Alors, il faut savoir que à cette occasion, le président chinois avait envoyé, non pas un second couteau, mais vous savez que le gouvernement, enfin, l'équipe qui dirige le pays, donc dans sa totalité, est dirigée par un petit groupe de 7 personnes qui sont les 7 membres du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois. C'est eux, la réalité du pouvoir, c'est eux. Alors, on nous parle que Xi Jinping, président et tout, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas un surhomme, il n'est pas capable avec sa tête de tout maîtriser. C'est cette équipe-là qui est à la tête du pays et qui conduit sa politique. Et donc, le monsieur Li Qi, qui est allé, donc, pas comme le fruit, qui est allé à La Havane, il a bien expliqué la position. Il a dit, voilà, nous sommes là pour vous aider. Le parcours que nous a fait nous, c'est long, de toute façon. Regardez, nous étions en 49, on était dans la misère, on était sous-équipés, on était très en retard au point de vue technologique, scientifique, on était très... On a surmonté tout ça. Tout ça, c'est un énorme travail. Vous pouvez le faire, on souhaite que vous le fassiez, et on vous aidera dans toute la mesure de nos moyens, qui aujourd'hui sont considérables. C'est ça que la situation. Donc, je suis votre parrain, je suis votre tuteur, pas tuteur parce qu'il ne leur impose pas une politique, je suis là pour vous aider parce que je sais d'où je viens et je veux que vous puissiez vous aussi progresser comme je l'ai fait.
C'est ça.
Voilà.
C'est
vrai. Je le fais en vous respectant les uns et les autres. Vous êtes très divers. Il y a le Zimbabwe, il y a l'Afghanistan. Enfin, il y a des régimes très, très différents les uns des autres. Je le fais parce que je pense que c'est ça, ce qu'on appelle l'évolution vers une gouvernance mondiale, c'est-à-dire un rassemblement des efforts des pays les plus pauvres pour éviter que ce soit les plus riches qui prennent tout le gâteau. C'est tellement simple à expliquer. Hein. Mais ceux qui ont le gâteau ne veulent pas le lâcher. Et puis, quand on leur dit « vous seriez un peu partageux, ça serait bien », on n'est pas partageux. Et si vous prenez mon gâteau, je tire. Voilà. Et c'est de ça que la Chine veut sortir. On ne tire pas. On essaye de discuter.
Et comme ça, il y aura de moins en moins de réfugiés qui meurent à la mer.
Bien sûr. Voilà, exactement. Exactement. Parce que dès l'instant où il y a un projet politique,
on voit avancer
les choses, effectivement, les gens n'ont pas tendance à prendre le bateau avec le risque de mourir. Ça fait partie de la crise qui s'accentue sur les migrants. Et puis, c'est ça, c'est le point de départ, c'est ça. Et c'est ça qui fait le cadre de l'élection du Parlement européen l'année prochaine et surtout de l'élection présidentielle française, parce qu'on prend ce chemin-là de dire « Oh là là, l'immigration, c'est mauvais ». Surtout, ne regardez pas les causes. Pourquoi s'en vont-ils ? Pourquoi ça ? Est-ce que vous y êtes pour rien ? Posez-vous cette question-là. Après, faites-nous des 30 discours sur les si, les ça, le danger. Non, pourquoi ils viennent ? Parce que, de toute façon, on ne leur a pas facilité la vie, on leur a même empêché une vie correcte. Bon, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, ça, c'était la Havane et le G77. Et puis, un petit mot, quand même, sur un événement qui est très, très intéressant, puisqu'en fait, il s'agit de la rencontre entre le président de la République populaire démocratique de Corée avec le président de la Russie, en Russie même, à partir donc de... Alors, vous savez, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. Vous savez que la Russie et la République populaire démocratique de Corée, des Corées du Nord, ont une petite frontière, toute petite,
ouais.
17 km de large. Mais ils existent, ça communique. Et au fond, il est tout à fait possible, ce qui a eu lieu donc la semaine dernière, que dans son train blindé, parce qu'il est prudent quand même, le président nord-coréen traverse la frontière russe et aille rencontrer Vladimir Poutine sur le territoire de la Russie. Alors il est allé rencontrer d'abord à Vladivostok, et puis ensuite ils sont allés ensemble sur un cosmodrome. Alors il faut savoir, cosmodrome, c'est-à-dire l'endroit où on envoie des fusées dans l'atmosphère. Mais ce qui se passe, c'est que la Russie a été obligée de faire un cosmodrome dans cette région-là du monde parce que le cosmodrome principal utilisé par l'URSS, du temps de l'URSS, d'où étaient partis Spoutnik et les autres, était à Baïkonour, et Baïkonour s'étend au Kazakhstan. Et donc la Russie a dit, les Kazakhstans, on n'est pas fâché avec eux, ils continuent à utiliser d'ailleurs le cosmodrome aussi à certaines occasions, mais on veut avoir un cosmodrome bien à nous. Et ils l'ont donc installé dans l'extrême-est sibérien, pas très très loin de la Corée du Nord, et donc le président nord-coréen est allé, a été invité à cet endroit-là, et on a parlé coopération balistique et coopération astronautique. Ouais. Parce qu'il faut bien savoir que tout seul, dans son coin, sans rien demander à personne et dans l'hostilité générale, la Corée du Nord a développé une capacité en balistique et en astronautique remarquable, remarquable pour un pays de 20 millions d'habitants. Et donc ça, la Russie le sait très très bien. Et si elle dit maintenant on se voit, on se fréquente et on s'aide dans ce domaine-là, c'est un message envoyé directement aux Coréens du Sud en disant on ne veut pas votre disparition, mais si vous continuez à obéir strictement à Washington pour nous embêter à longueur de temps, rendez-vous compte, on est en capacité de se défendre et donc vous n'arriverez pas à nous détruire. Et si la Corée du Sud dit ouais, enfin j'ai la Corée du Nord, ça je suis habitué, mais j'ai aussi toute la Russie, juste de l'autre côté de la frontière coréenne, ça fait un peu difficile à digérer. Donc la leçon, elle est là, elle est très très intéressante.
Et l'Europe et l'Amérique ont donné une image très très mauvaise de président nord-coréen.
Ah ben bien sûr.
Alors que la réalité, c'est pas voilà, exactement. Ouais. Voilà. Alors, ils disent que c'est un criminel, c'est le plus grand dictateur, comme ils l'ont dit pour Bachar, comme ils l'ont dit pour Kadhafi.
Oui.
Comme,
bien sûr.
Voilà. Et ça, c'est du mensonge.
Voilà. Et puis voilà. Et puis il faut voir les résultats de ce pays qui, avec toutes les sanctions possibles. Alors, et un dernier mot, puisqu'on approche de l'heure, pour savoir, on dit que la Corée du Nord est une puissance atomique. Alors je rappelle que la Corée du Nord avait un programme d'armement atomique, puisqu'elle savait qu'il y avait des armes atomiques américaines juste de l'autre côté de la frontière autour de Séoul,
des
États-Unis. Bon, ça, ils savaient. Donc, ils commençaient à se doter très modestement. Ils avaient une ou deux bombes, etc. Et à un moment donné, l'Amérique de Clinton vient les voir en disant « Écoutez, il faut arrêter votre nucléaire, mais en échange, je vous fournirai des matériaux pour faire de l'énergie nucléaire propre. » Pas d'armes, mais du nucléaire, vous y avez droit. C'est prévu d'ailleurs dans le traité de non-prolifération, etc. Et donc la République de Corée du Nord signe, dit d'accord, si vous me fournissez des centrales nucléaires pour avoir de l'énergie nucléaire pas chère sur mon territoire, c'est bien. Bon, Clinton promet, il signe, la Corée du Nord signe, et puis Bush est élu à la place de Clinton. Et Bush dit, mais moi je respecte pas la signature de Clinton. Et donc, à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, la Corée du Nord, qui avait signé le traité de non-prolifération en disant qu'elle s'engageait à ne pas développer l'arme nucléaire, a dit « Ah, mais puisque vous êtes des menteurs, au revoir, je reprends mes billes. Mmh. » Hein. Et donc, ils ont redéveloppé. Maintenant, ils ont développé les bombes et les capacités de les transporter, y compris
ils
loin.
Ils ont des sous-marins.
Voilà, et même des sous-marins. Voilà, c'est ça, là. Parce que ça, on oublie cette vilainie de George Bush, c'était pas la seule, mais dire un pays qui dit, et c'est pas la seule fois il le fait, je m'engage à ceci, à cela, et puis qui après dit, ah ben je vous ai dit ça, mais c'était pas vrai.
Ils l'ont fait pour l'Iran, mais pareil. Bien,
pareil pour l'Iran. Voilà. Dernier cas qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. À un moment donné, on est sous Carter, il y a un problème autour du canal de Panama.
Oui.
Et à ce moment-là, Carter donne, signe avec le président du Panama à l'époque, qui s'appelait Omar Torrijos, un traité disant, finalement, les États-Unis se retirent de la zone du canal de Panama, puisqu'en fait, il y avait des soldats américains tout le long, à droite et à gauche du canal. Hein, on donne la gestion au Panama. Donc, on reconnaît que vous êtes un État souverain, on est en confiance, vous ferez le boulot, ça va vous rapporter. Hein, le canal est à vous. Hein, bon, ça c'est très bien. Et puis, on s'aperçoit que quelques mois plus tard, M. Torrijos a signé le papier et son avion tombe dans des circonstances jamais élucidées. Hein. Ouais. C'est terminé parce que, évidemment, Carter a fini son mandat. Donc, le président qui l'avait aidé un peu à avoir de l'autonomie et de l'indépendance, eh ben, il était de trop. Voilà, point à la ligne, c'est tout. Alors, comment voulez-vous avoir confiance dans un État qui travaille comme ça ? Bon. Dernière chose, juste pour donner une date. Savez-vous, alors une question pour les auditeurs, pour réponse la semaine prochaine. Savez-vous à quelle date l'armée russe devait rendre la Crimée, enfin plutôt le port de Sébastopol à l'Ukraine ? Vous savez pas ça. Bon, c'était prévu dans un accord au moment où l'Ukraine est devenue indépendante de l'URSS. Ouais. La marine russe avait accès, la jouissance donc avec sa flotte de guerre, hein, à la base de Sébastopol, qui est le principal port militaire de la Crimée, jusqu'en 2017. C'est-à-dire qu'en 2014, quand la Russie voit qu'il y a un coup d'État organisé très ouvertement par les États-Unis pour mettre à la tête de l'Ukraine un pouvoir qui veut absolument chasser toute influence russe, ils se disent, ce pouvoir-là, on est en 2014, dans 3 ans, ils nous mettent à la porte de notre base militaire. Et c'est la seule base militaire qu'on ait sur la mer Noire. Donc, c'est pas possible. Là, vous nous voulez du mal, hein, on a très bien compris, et c'est pourquoi la Russie organise un référendum pour que les Criméens décident de leur avenir. Hein. Et donc, désormais, la base militaire de Sébastopol est russe de plein exercice, elle n'est pas ukrainienne et elle n'est pas prête de le redevenir. Ouais. Mais ça, c'est à rappeler aussi, parce que autrement, on se dit pourquoi tout d'un coup ils se sont fâchés sur la question de la Crimée. Ils se sont fâchés. Alors, si, ce qui fait comprendre, c'est que dans l'opinion occidentale, au moment où donc la Crimée vote son rattachement à la Russie, ce qui était conforme à la Constitution, au moment où le Parlement russe à Moscou, la Douma, accepte que la Crimée rentre dans la Fédération de Russie, bon, donc il y a quand même toute une série de gestes officiels, l'opinion occidentale considère que c'est un vol. Hein. Bon, voilà. C'était pour ça, parce qu'on ne voulait pas que la Russie ait une base militaire sur la mer Noire. On voulait que
il y a eu des élections là, dans le Donbass et la Crimée. Bon, on n'a pas eu de résultat non plus.
Il y a eu des élections municipales et régionales de gouverneurs dans les membres de la Fédération de Russie. Il y a eu des résultats, ils sont positifs. Pour les candidats, disons, de Russie unie sur les deux provinces, donc Lugansk et Donetsk. Ouais. Mais il faudra qu'on y revienne parce que c'est très compliqué. La géographie russe, elle est compliquée.
Il y a eu même des élections en Russie aussi.
Tout à fait. Mais c'est très compliqué parce que c'est pas du tout comme les États-Unis avec une fédération et puis 50 États à peu près égaux dans leur forme de gouvernement, le type d'élection. La Russie, c'est un État très compliqué dans sa constitution. Il y a différentes formes de provinces avec plus ou moins d'autonomie.
C'est grand. Hein,
oui, c'est très très grand. Et donc, il faudra donner plus d'explications, mais on le fera. Ça vaut la peine pour la semaine prochaine.
Ouais, c'est vrai. Voilà.
Merci de votre attention. Et on se retrouve donc mardi prochain à 14h. 14h, notez-le, vous le savez.
Pareil, oui, 14.
C'est 14h. Ouais, merci Roselyne.
Roselyne. Merci, au revoir.
Ça a été, hein.